Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, troisième cassette, première face, page 94. Et cela aussi passera. Un musicien errant un jour allait sa route. C'était un homme simple. Sa vie ne l'était pas et pourtant il l'aimait. Or, ce jour-là, c'était un matin gris d'automne. Comme un clocher lointain émergeait de la brume, le chant qu'il fredonnait pour alléger ses pas s'étrangla soudain dans sa gorge. Là, dans le champ voisin, un pauvre homme courbé sous le joug et le fouet tirait une charrue que son maître menait. « Comment peut-on traiter les gens comme des bêtes ?» pensa le voyageur pris de pitié rageuse. À travers le labour, il vint à l'attelage. « Honte sur toi, dit-il au tourmenteur d'esclaves, cet homme que tu forces à trimer comme un âne n'ose pas te cracher la vérité en face. Je le ferai pour lui. Ton âme est un caillou, ta tête un désert sombre. Ne t'a-t-on pas appris que nous sommes tous frères ? Bandit, coquin barbu, malandrin d'un autre âge, bafoueur illégal de dignité humaine. » Il brandit son bâton. « De quoi te mêles-tu ? Lui dit le tourmenté. Le bien, le mal, tout passe, et cela aussi passera. » Tandis que son bourreau riait benoîtement, en haussant les épaules, l'homme, sans un autre mot, se remit au labeur. Le brave musicien, pantois comme devant la lune en plein midi, pensa. « Un esclave, avocat du méchant qui l'opprime, Seigneur, où va le monde ?» Il s'en alla, le pas tout à coup indécis. Un proverbe prétend que l'on ne court jamais deux fois la même route. Un autre affirme le contraire. Par où tu es parti, par là tu reviendras. C'est ce deuxième qui dit vrai. Le redresseur de tort, son violon à l'épaule, après 3 ans d'errance, un jour, vint à passer au bord du même champ. Il se souvint, fit halte, et ses yeux s'allumèrent. Au loin, dans le labour, allait une jument que gouvernait l'esclave enfin libre et prospère. Son allure était franche, il était bien vêtu, il faisait sa semaille à grands envols tranquilles. Le voyageur surpris s'en fut le saluer. « Grâce au ciel, lui dit-il, vous avez survécu, mieux, vous me semblez riche, et votre tortionnaire a-t-il été puni comme il le méritait ?» « Le seigneur d'à côté l'a fait assassiner, répondit le bonhomme. Il avait, paraît-il, séduit sa jeune épouse. On m'a donné sa terre. Ami, j'en suis heureux. Vous avez eu raison d'avoir confiance en Dieu, lui dit le musicien en lui serrant les mains. Voilà votre avenir désormais assuré. » L'homme sourit, reprit dans le sillon sa marche. « Pas plus qu'hier, dit-il, le bien, le mal... Tout passe, et cela aussi passera. 50 écus de sagesse. Il était une fois un village où les gens se disputaient sans cesse. L'un disait-il bonjour, l'autre lui répondait que le jour n'était pas aussi bon qu'il le prétendait. Un troisième rétorquait que le ciel était bleu, et donc on pouvait parler sans erreur de jour bon. Là-dessus, le premier, soucieux de ne pas être en reste, estimait qu'il pleuvrait avant le soir tombé. Un quatrième braillait par la culotte de Dieu que ses supputations météorologiques lui cassaient les oreilles. Le forgeron venait brandir sa masse d'armes et les femmes entonnaient leurs chorales acariâtres. Bref, ces gens n'étaient d'accord sur rien, sauf sur le fait d'être sur tout en désaccord. Or, un soir, comme passait un ange sous l'orme de la place, un vieux dit calmement « Nous manquons de sagesse. » Autour de lui, on se racla la gorge et chacun convint que la raison n'habitait certes pas chez le voisin d'en face. Pour la première fois, on se prit à réfléchir. Le vieux profita de cette marée basse pour avancer une idée qui le tarabustait depuis que sa femme lui avait cassé le nez d'un coup de poêle à frire. « Mes amis, dit-il, je connais bien Venise. » V-E-N-I-S-E. On bâilla.
« Et alors ?»«
C'est une ville sainte. La sagesse y pousse aussi dru que le chien dans chez nous. Allons en acheter. Nous la cultiverons et nous vivrons en paix. » Les hommes convinrent qu'en effet, quelques graines d'esprit ne seraient pas de trop dans leur jardin public. Ils décidèrent donc, puisque dans cette ville on trouvait à profusion de cette denrée rare, d'y faire leur marché. Ils désignèrent 3 d'entre eux parmi les plus sobres, on leur donna 50 écus, un sac à provisions, une barque, et dès l'aube du lendemain, ils hissèrent la voile. À peine débarqués à Venise, tout pharo, ils coururent après les gens. « Oh, hé, monsieur, oh, madame, auriez-vous, s'il vous plaît, de la sagesse à vendre ?» On les crut fous, on haussa les épaules. Tout le jour, bravement, ils arpentèrent les rues et les places en quête de ce bien précieux qu'ils étaient venus chercher. Au soir, comme ils interrogeaient une servante sourde dans la taverne où ils avaient pris logement, un élégant malandrin vint s'asseoir à leur table. « De l'esprit, leur dit-il, mais j'en vends, de la sagesse. Il m'en reste un coffret. Allons, vous me plaisez. Je peux vous le céder pour 50 écus d'or. C'est donné !» Les autres lui tendirent leur bourse. L'escroc s'enfuit dans l'arrière-cuisine, attrapa une souris, la fourra dans une boîte en fer, revint et dit aux 3 compères. « Ne soulevez pas ce couvercle avant d'être chez vous. La sagesse est dedans. Son parfum est capiteux, mais... fragile, craignez qu'il ne s'évente. Bon retour sur vos terres, heureux hommes. » Les 3 godelureaux s'en allèrent, chacun voulant porter leur trésor sous son bras, se disputant déjà l'honneur d'être celui qui poserait la boîte à l'ombre de l'orme, dans un silence ému, devant le village assemblé. Le lendemain, ils reprirent la mer. Or, comme il naviguait. « Puisque cette sagesse doit être partagée, dit l'un, j'ai bien envie d'en flairer l'odeur en guise de hors-d'œuvre. »« Bonne idée, moi aussi, répondit le deuxième. » Et le troisième dit, « J'entends gratter là-dedans. » La boîte à peine ouverte, la souris bondit dehors et bientôt disparut dans le fond du navire. Les hommes lui coururent après. Ah, ce fut en vain. Ils débarquèrent dans le village en fête, penauds comme des pénitents. Ils avouèrent tout. La sagesse, ah, on aurait dit un rat. Elle nous a échappé, elle s'est cachée quelque part dans la cale. On gronda autour d'eux, on leva des bâtons. Alors le vieux ouvrit les bas et dit, « La sagesse, messieurs, est là, dans ce bateau. C'est le point essentiel. Tirons-le donc au sec. » Qu'on monte la garde autour de lui afin qu'elle n'en sorte pas. Et nous irons tous les dimanches, dans ce temple nouveau, nous imprégner de son parfum. Ainsi nous deviendrons des gens estimés de Dieu. » Ils firent ainsi. Et de ce jour, chacun redoutant fort l'œil pointu du voisin, ils prétendirent tous avoir le nez sensible et ne parlèrent plus, sereins comme des papes, que de beauté profonde. Lituanie, la reine des serpents. Il était un jour un vieux, une vieille. Ils avaient 7 fils et 3 filles. Des 3, la plus jeune s'appelait Églé. E accent aigu, G-L-E accent aigu. Un soir d'été, les sœurs allèrent se baigner au lac. Devant la maison était un champ rouge, partout fleurissaient des coquelicots. Le lac était au bout du pré. Toutes les 3 jetèrent au ciel la robe, les bas, la chemise, coururent à l'eau, s'éclaboussèrent, rirent à grands cris, nagèrent au large vers le soleil couchant, revinrent radieuses et se rhabillèrent. Églé s'attarda. Quand elle retourna sur l'herbe, elle vit un serpent sur ses vêtements. Elle hurla. Ses 2 sœurs s'enfuirent. La bête dressa sa tête au regard sans fond et lui dit, Je t'aime, fille. Épouse-moi. Aigle répondit, « Oh non, Dieu du ciel, je vis au soleil, toi dans les ténèbres, rends-moi mes habits et va-t'en d'ici. Donne-moi ta parole et je m'en irai. Un mot te suffit ? Celui que j'attends. Je serai ta femme puisque tu le veux. » Le serpent disparut dans l'herbe touffue. 2 jours passèrent. Vint le troisième. Comme le soleil s'embrumait au couchant, le sol parut soudain se mouvoir. Des foules de couleuvres, de vipères, d'orvets, de vers grouillants déferlèrent en vagues vivantes contre la maison et se mirent à siffler, à chuinter, à grincer, à gronder comme la houle sous le vent. Aiglé gémit et frissonna, et ses parents eurent la mort au cœur. 6 serpents, plus gros que les autres, cognèrent à la porte. Ils dirent, « Ouvrez, salut à vous, nous sommes les ministres du prince. » Il fallut bien leur obéir, d'autant que la marée grimpait au mur et battait contre les carreaux des fenêtres. Les 6 serpents franchirent le seuil, entrèrent dans la cuisine, s'enroulèrent aux jambes d'Aiglé, à ses bras, à sa taille, et l'entraînèrent dans la nuit grise jusqu'au bord de la mer. Quand ils y furent, c'était l'aube. Comme le soleil se levait, un cavalier sortit des vagues, sur son cheval noir. Il était beau, mélancolique. C'était le prince des serpents. Il dit, « Prends ma main, Aiglé, mon épouse. » Sur la mer venteuse, vint un navire aux hautes voiles. Il les emporta jusqu'à l'île verte où vivait ce prince. Là était un palais d'émeraude, fontaine, parfum, lumière, musique, tout y était voluptueux. On fit une longue fête. La beauté des jours apaisa Aiglé. La douceur des nuits la fit amoureuse. Elle devint une reine, heureuse et libre de jouir de la mer, de l'île, des 1000 bonheurs que lui accordait son époux. Elle mit au monde 3 garçons. Uosis, U-H-O-S-I-S, Berzaz, B-E-R-Z-A-Z, et Azuolaz, A-Z-U-H-O-L-A-S. Après eux, naquit une fille nommée Drébulé, D-R-E accent aigu, B-U-L-E. 9 ans passèrent. Un jour, l'aîné des garçons demanda, « Mère, pourquoi n'avons-nous jamais vu vos parents ?»« Ils sont sur la rive, au-delà de la mer, » répondit Aiglé. Son cœur s'embruma. De vieux souvenirs l'envahirent. « Mes sœurs et mes frères pensent-ils à moi ?» se dit-elle. Au soir, son époux la trouva chagrine. Il ne lui dit rien. Il resta rêveur. « Mon prince, » dit-elle. « Ma reine, parlez. J'aimerais aller visiter mes pères et mères avec nos enfants. »« Ma reine, » dit-il, « comme il vous plaira. » Allez librement. Avant de partir, c'est notre coutume, vous devrez pourtant filer la quenouille de soie que voici. Aiglé se mit aussitôt à l'ouvrage. De l'aube à la nuit, elle fila. De la nuit à l'aube, encore une nuit, encore un matin. Puis elle soupira. Elle laissa aller ses mains douloureuses. Son travail était comme au premier jour. Elle s'en fut trouver sa vieille servante. Mère, « dites-moi comment filer cette quenouille inépuisable. » La vieille répondit, « 1, 2, 3, du bois. 4, 5, 6, 3 fils. 7, 8, 9, feu neuf. » Aiglé revint à sa chambre, appela ses garçons, leur dit, « Allumez le feu, la cheminée s'enrhume. » Bientôt, des flammes gaies jaillirent des bûches. Aiglé posa la quenouille dessus. Quand elle fut brûlée, un crapaud parut. De sa gueule sortit un fil luisant et fin. Elle en fit une boule, semblable à la pleine lune, courut au salon où était son mari. « C'est bien, » dit-il. Il prit sous son fauteuil 2 souliers de fer. « Chaussez-les, ma reine. Quand ils seront usés, vous pourrez vous mettre en chemin vers la maison de votre père. » Elle s'en alla, traînant ses savates pesantes sur le parquet,
fit 100 pas et tomba.
Le lendemain, elle revint pleurer chez sa vieille servante. « Mère, dis-toi comment user d'un coup ces semelles ferrées. » La vieille, cette fois, compta de 5 à 13 et par Sainte Thérèse ordonna de jeter les brodequins dans la braise de Blaise. C'était le forgeron du palais d'Émeraude. Aiglé courut chez lui, fit retirer ses sabots. Ils furent aussitôt réduits en loques. Elle vint les poser sur un coussin de soie au pied de son époux.
« Or bien, dit-il, cuisinez maintenant 4 pâtés de lièvre. Je veux que vous les portiez de ma part à votre mère. »«
Ce sera bientôt fait, lui répondit Aiglé. Hélas, dans le palais, plus une casserole, plus un poêlon, plus une assiette, rien nous faire dorer le moindre bout de gras. » Tandis qu'elle fourrait partout sa tête, dans les buffets déserts, dans les armoires vides,
« Ne gémis pas ainsi, tu fais grincer mes os, lui dit sa vieille servante. Prends de la pâte à pain, creuse-la dans ta main, fais-la durcir un brin, je compte jusqu'à 20, voilà fait un plat fin, tu m'ennuies à la fin. »
Dans ce plat de pain dur, Aiglé put cuire 4 pâtés de lièvre. Elle les fit porter au prince par 4 serviteurs.
« Tu m'as vaincu, dit-il, va ma femme. » Ne reste pas plus de 9 jours loin de moi. Passé ce temps, reviens. Que personne ne t'accompagne sur le rivage de la mer. Je veux que tu sois seul avec nos 4 enfants. Quand tu seras au bord des vagues, tu chanteras ces paroles secrètes. Le prince vient, son âme est franche, que l'écume se fasse blanche. Le prince est à jamais absent. Que l'écume se fasse sans. Alors, Dieu veuille que j'apparaisse et que vous tombiez dans mes bras.
Il appela ses 3 garçons et sa fille. Il leur dit,
enfants, souvenez-vous, personne sur terre ne doit jamais entendre l'incantation que j'ai chantée.
Dans la maison de sa famille, on accueillit Aiglé à grandes embrassades. « Comme tes fils sont beaux, lui dit-on, et ta fille, comme ses yeux sont grands, comme sa peau est douce, et toi, comme tu resplendis, nous t'avons tant pleuré. Grâce au ciel, te voilà revenu. »
« Parents, frères et sœurs, leur répondit Aiglé, dans 9 jours, je m'en retournerai avec mes 4 enfants. »
On voulut la garder. Sa mère la pria en caressant son visage. Son père gronda, « Tu resteras ici !»
Ses frères rusèrent.
Ils firent des cadeaux aux 4 enfants, les prirent par l'épaule, les amenèrent dehors.
« Votre père serpent, où vous attend-il? Sur le rivage bleu? Et viendra-t-il en barque ou sur le dos d'un aigle ?»«
Nous chanterons un chant et il apparaîtra. »«
Et quel est donc ce chant, beau neveu ?»
Les 4 enfants d'Aiglé se turent. Les autres menacèrent de leur donner le fouet, de les vendre aux gitans, de les jeter aux loups.
Les 3 garçons restèrent tête droite.
« Nous mourrons plutôt que de trahir notre père, » dirent-ils fièrement.
Mais leur sœur dérébulée trembla, pleura, on la poussa encore. Alors elle chanta.
Le prince vient, son âme est franche, que l'écume se fasse blanche. Le prince est à jamais absent, que l'écume se fasse sans.
Les frères d'Aiglé allèrent au rivage. Ils chantèrent l'incantation secrète, et le prince serpent, chaussé de bottes vertes, s'avança sur la crête des vagues. Aussitôt il fut pris, 7 couteaux s'abattirent sur son dos et sur sa poitrine. Il tomba sans un mot, et son corps disparut dans les vagues.
Après 9 jours, Aiglé fit ses adieux à sa famille et s'en revint à la mer avec ses fils et sa fille. Elle chanta.
Que l'écume se fasse blanche, que l'écume se fasse sang.
Alors, la mer se teinta de rouge et sur la houle vint une voix qui lui dit.
Les 7 frères armés de couteaux m'ont tué de face et de dos. Qui a chanté le chant secret ?
C'est ma bien-aimée, drébulée, mon enfant, mon amour, ma nuit, ma vie, ma mort, mon infini.
Aiglé tomba la face dans ses mains sur le sable mouillé. Elle pleura longtemps.
puis, se tournant vers Drébulé, lui dit « Prends racine ici même et tremble, tremble encore, peureuse, tremble, tu seras l'arbre nommé Tremble. » Après quoi elle dit à ses fils « Garçon, qui n'avez pas failli, vous serez arbre vous aussi, mais arbre fier et arbre sain. » L'un fut changé en chêne, l'autre en frêne, l'autre en bouleau. Aiglé, enfin, se fit sapin, arbre vert au cœur de l'hiver, et Drébulé, depuis ce temps, au moindre vent, tremble et gémit, voit l'infini et tremble, tremble. L'enfant qui savait. Par une nuit d'hiver, un voyageur perdu aperçut une lueur au fond des ténèbres venteuses. Il rendit grâce à Dieu. C'était une cabane. Il décrotta ses bottes contre la pierre du seuil, cogna du poing la porte, entendit au-dedans. « Entrez ! Le verrou n'est pas mis !» Il poussa le battant. Une bouffée de vent froid pénétra avec lui dans la salle enfumée. Là n'était qu'un homme de grand âge, près d'un berceau. Un chaudron bouillonnait sur un trépied, au bord de l'âtre. « Bienvenue, murmura le vieillard. Ne faites pas de bruit, mon enfant dort. » Le voyageur alla épousseter sa neige devant la cheminée. Alors il entendit ces paroles étranges, derrière le rideau du petit lit. « Je ne dors pas, grand-père. Je cherche simplement quel jour de quelle année notre roi Miroslav, M-I-R-O-S-L-A-V, a répudié sa femme coupable de stérilité mâle. » Le voyageur, surpris, se tourna vers le vieux qui l'aidait à quitter son manteau, raidi par la froidure. « Bonté divine, dit-il, est-ce votre marmot que je viens d'entendre ? « Quel âge a-t-il donc ?»« 6 mois, répondit le vieillard. « Les enfants, aujourd'hui, ne sont plus ce qu'ils furent. » Il soupira et dit encore. « Puisqu'il est réveillé, si le cœur vous en dit, vous pouvez bavarder avec lui le temps que cuise notre soupe. » L'homme s'approcha du berceau, l'œil rond, gai au dehors, inquiet en ses dedans. « Bonsoir, petit ami, dit-il. Où est votre papa à cette heure tardive ? Mon père est au soleil. Il fait de peu beaucoup. Voilà qui est plaisant. Et votre mère ? Ma mère cuit le pain qu'elle a déjà mangé. J'aurais dû y penser, répondit l'autre. Je n'ose pas vous demander des nouvelles de votre grande sœur. Ma sœur se tient les flancs du rire qui lui vint. Voici bientôt 1 an.
« C'est clair comme la lune en plein brouillard, grogna le voyageur. On se moque de moi, on m'emberlificote. Que diable signifient ces charades ?»
Le nourrisson partit d'un ricanement de crécelle.
« C'est pourtant enfantin, dit-il. Mon père est dans le sud, où la terre est fertile. Il ensemence un champ qu'il tient de mon oncle défunt. Du grain qu'il jette en terre, une belle moisson naîtra. De peu, il fait beaucoup. » Ma mère s'est nourrie trop longtemps, à crédit. Et maintenant, ses galettes vont toutes à rembourser ses dettes. Elle cuit donc le pain qu'elle a déjà mangé. Quant à ma sœur, il y a 7 mois, elle faisait la belle. Elle se poudrait le nez en chantant des fadaises. Son ventre, aujourd'hui, est gros comme un baluchon. Avant Noël, elle aura mis au monde un enfant de rencontre. Voilà pourquoi j'ai dit qu'elle se tient les flancs du rire qui lui vint il y a bientôt 1 an.
« Par les moustaches de la femme du diable !» répondit l'homme bouche bée. « C'est la première fois de ma drôle de vie que j'entends un nourrisson raisonner de la sorte. »«
Vous êtes naïf, soupira le marmot. Les enfants savent tout, mais... qui sait les entendre ? Les gens sont sourds et le monde est cruel. Je pourrais vous en dire et vous en dire encore, mais je suis fatigué. » Et les yeux mi-clos,
il se mit à chanter, à voix triste et lointaine.
Que suis-je venu faire ici? J'aimerais mieux être une bête, fils d'une louve de Russie. Oh, j'aurais moins mal à la tête.
Comment Josukas, J-O-S-U-K-A-S, perdit le goût des contes. Selon l'opinion de son épouse, Josukas était un vieux fou. En vérité, c'était manière d'être désagréable. Il labourait quand il fallait, il semait et moissonnait à l'heure, il buvait sec le samedi soir, troussait sa femme le jeudi et sa servante le dimanche. Bref, il était en tout normal, sauf qu'il aimait plus que le vin, plus que ses champs, plus que sa vigne et même plus que ses écus, qu'on lui raconte des histoires. Personne ne pouvait venir chez lui sans payer l'entrée d'un récit, d'une fable ou d'un conte mirobolant. De fait, quand arrivait quelqu'un, il ne disait jamais « bonjour », il disait « alors ». Les yeux ronds, béats, conquis d'avance, et attendait plein d'espérance que le nouveau venu le gave de merveille. Un soir de fin d'automne, comme il me lisait un vieil almanach près de sa commère à Bézique qui tricotait devant le feu, on frappa soudain trois coups à la porte. Il alla ouvrir, son livre sous le bras. Un voyageur entra, fourbu, crotté, pestant contre les brumes nocturnes qu'il avait égarées. On lui trancha du pain, on lui servit un bol de soupe, on remplit sa timbale, on sortit le fromage. Quand il eut bien mangé, « alors, » dit Josukas. L'étranger soupira, puis se cura négligemment les dents d'une tige de plume, compta sa journée de la veille, les méchancetés du temps, ses rencontres de route. Après quoi, s'échauffant, aiguillonné par l'œil de Josukas, il se mit à broder un récit d'aventures vraisemblables d'abord, puis peu à peu orné de détails éblouissants, de digressions mirifiques, d'éclats étranges, si bien qu'après trois pots de piquette, il avait traversé quatre fois l'océan, dont une en planche à voile, visité la ville au toit d'or des Indiens d'Amérique, régné sur 15 tribus d'hommes-chiens dans les Andes et brûlé ses moustaches à la terre de feu. Bref, Sinbad le marin, qu'il avait bien connu, n'était auprès de lui qu'un moussaillon de rivière et le fringant Ulysse, un touriste craintif. La vieille, dans son coin, grogna du nez en tirant sa pelote, marmonna que son Josukas était décidément un benêt haut de gamme pour rester la bouche béante devant ses balivernes et profita du temps où le conteur vidait sa 18e timbale pour serrer son châle sur sa poitrine plate et s'en aller au lit. « Petit père, dit le voyageur à son hôte Pantois, je conçois que ma vie t'époustoufle. Mais si tu savais vraiment qui je suis, tu prendrais ton soulier pour un chapeau de paille, tellement tu serais surpris.
Je sais bien qui vous êtes, répondit Josukas, l'œil finot sous ses sourcils en broussailles.
Un menteur admirable et tel que j'aimerais en rencontrer tous les jours. Non, lui dit l'étranger, la voix soudain rugueuse. Ce n'est pas un menteur qui vient de te parler, bonhomme. C'est un loup.
L'autre leva la tête. Il prit en pleine face le souffle chaud d'un museau carnassier. D'un coup, il s'enfonça sur sa chaise jusqu'à toucher la table du menton. Devant lui, pas de doute, était un loup velu, palpable, indiscutable, quoique parlant l'humain.
Cesse donc de trembler, gronda le fauve en partant d'un grand rire. Vois, nous sommes compères. Que crains-tu, toi, un bel ours des montagnes?
Josukas se toucha la figure, les bras, il regarda ses griffes, fut aussitôt debout, cogna des oreilles aux trois bottes d'oignon suspendues à la poutre.
Il était bel et bien un ours de haute taille, au poil dru, au poitrail haletant. « De l'air !» gronda le loup. « De l'air, petit père ! Écoute la nuit, la belle nuit venteuse. Regarde-la, trousser les jupons de la lune. Viens, balourd, viens saouler ton gosier de bonne viande saignante. » La porte bousculée tomba de son long dans la boue de dehors. Ils traversèrent la cour en soufflant leur buée dans la tempête noire. « J'ai faim !» hurla le loup. Hey, « c'est mon écurie, n'entre pas !» gronda l'ours. « Mon âne, mon bel âne, mange ! C'est ma tournée !» ricana l'autre. Ils dévorèrent l'âne, coururent au mouton. « Mon troupeau !» gémit l'ours. « Empiffre-toi, gros lard, goûte cet anneau. La cuisse est succulente !» Jésus-Christ pour les chasser babine et ses griffes luisantes où pendaient des lambeaux de chair délicieuse. Le loup trottait déjà sur le chemin qui menait au village. Il tomba soudain en arrêt, la truffe au vent. Une ombre dévalait le sentier. Jésus-Christ, un homme, vois comme il est gras, souffla-t-il, l'œil en feu.
Épargnons-le, dit l'ours, par pitié, c'est le curé du bourg. Dieu nous l'envoie, l'ami, à l'abordage.
Du curé ne resta qu'un bouton de soutane.
Le jour vient, dit le loup. Il est temps de rentrer, l'ami. Je connais une caverne où nous serons tranquilles.
Par les landes mouillées, ils grimpèrent dans la montagne.
Misère, dit l'ours tout essoufflé quand ils furent en haut. Des chasseurs vont venir, je les connais. Un rien les met en rage. Un âne, trois moutons et le curé du village. Ils nous feront payer cette orgie en monnaie de fusil.
« Ne t'inquiète pas, lui répondit le loup. Entre dans la grotte et couche-toi au fond. Moi, je veille à l'entrée. Je ne crains pas les balles. Si je me fais tuer, je trouverai bientôt un autre corps où vivre. »«
Et moi, dit l'ours.
Dès que j'aurai cessé de respirer, si par malheur cela m'arrive, tu redeviendras le brave Jésus-Christ. Bonne sieste, mon gros. »
Les chasseurs, ils étaient bien 40, vinrent au soir de ce jour. Ils tuèrent le loup de 30 coups ratés et 10 en pleine peau. Jésus-Christ reprit aussitôt son apparence. Il en fut content. Il attendit que la meute humaine ait quitté la montagne et s'en revint chez lui.
Si tu savais, ma femme, dit-il à peine entré, la gorge rauque, les yeux exorbités.
Ah, te voilà, brigand, lui répondit sa vieille, ivrogne, sac à bouse. Monsieur s'en est allé bambocher à la ville avec son voyageur. Ah, que Dieu les tripe, celui-là, pendant qu'un loup dévorait son âne et son troupeau. Tais-toi donc, déserteur, je vais t'apprendre à dépenser nos sous chez les filles.
Ma femme, écoute-moi, tu ne vas pas me croire.
« Te croire ? Ah, certes non ! Menteur, j'en foutre, percepteur, traître, syphilitique, va te laver, fainéant, et retourne au travail !»
Un grand coup de balai l'expédia tout habillé dans l'abreuvoir glacé. C'est à peu près ce jour que Jésus-Christ perdit le goût des comptes. Caucase. L'homme qui fut serpent, son épouse et le mort. Il était une fois un prince sans enfant. Demande un fils à Dieu, lui dit un jour sa femme. Prie-le vite, je sens venir l'hiver des ventres. Cent nuits durant, le prince pria à sa fenêtre en contemplant les montagnes obscures sous les étoiles. Sa femme fut enceinte. Quand le temps fut venu, elle accoucha d'un serpent vert. Il fut élevé 15 années en secret. Quand lui vint l'âge d'homme, il se fit méchant. Son père vint le voir. Il le regarda vivre une pleine journée. Au soir, il dit, « Il lui faut une femme. » Sa mère décrocha son grand manteau et s'enfuit sous la lune. À l'entrée du village, brillait une chandelle sur un rebord de lucarne. Elle poussa la porte. La maison était sombre. Une veuve et son chien mangeaient leur soupe maigre devant un feu mourant.
Je cherche une fille à vendre, dit-elle. J'ai de l'or. Nous la louerons bien.
Ma fille, cria la veuve, suis cette femme. Là-haut, dans le château, on sert de bonne viande.
Elle jeta au feu ce qui restait de breuvage au fond du bol. La fille sortit d'un recoin obscur. La mère du serpent la prit par la main et s'en fut avec elle. On lava sa figure, on coiffa ses cheveux, on la vêtit d'une robe blanche et rouge. On ne put effacer la peur de son regard. À la nuit tombée, on l'enferma dans la chambre nuptiale. On ne put retenir le cri entre ses lèvres. Au matin, on vint saluer les époux. Le serpent sommeillait au pied du lit et la fille était morte. Le prince décrocha le grand manteau et s'en fut le poser sur le dos de sa femme. À nouveau, elle courut au village au bas de sa montagne. Les cailloux sous ses pas fuirent comme des bêtes effrayées parmi les herbes. Les nuages grondèrent. Au soir, elle parvint à la maison de la veuve. Elle passa courbée devant sa lucarne en retenant le bruit de ses souliers. Plus loin sur le chemin, une lampe brûlait au-dessus d'une porte. Là vivait une vieille avec un charbonnier. « Je cherche une fille à vendre, dit-elle. J'ai de l'or. » Le charbonnier mangeait sa soupe de pain gris. Sa vieille tisonnait le feu sous le chaudron.
« Ma fille, cria-t-il, suis cette femme !»
Une fille sortit de l'ombre au coin de la cheminée. La mère du serpent la ramena là-haut, au bout du long chemin où était son château. Elle la parfuma, maquilla ses paupières, piqua trois roses à peine écloses dans sa chevelure, la chaussa de cuir doux et la poussa dans la chambre nuptiale en appelant son fils qui geignait contre le mur. Le lendemain, on vint. La fille était couchée au travers du lit. Elle saignait du cou sur le drap. Ses yeux étaient ouverts. Elle ne respirait plus. Le prince désigna d'un œil le grand manteau. Sa femme s'en alla dans la neige et le vent. Elle passa devant le logis de la veuve, plus loin devant celui du charbonnier. Sa lampe était éteinte au-dessus de la porte. Plus loin encore était l'échoppe d'un tailleur. Elle risqua la tête par l'entrebâillement. « Je cherche une fille à vendre, dit-elle.
« Attendez-la dehors, répondit le bonhomme.
Il appela sa fille. Elle était près du feu. Elle reprisait des bas.
« Mets cette chemise, lui dit-il. Elle est en fil d'épines. » « Prends cet habit, je l'ai taillé pour l'homme que tu devras aimer.
Ce soir, dans la chambre nuptiale, ne quitte pas ta robe avant que ton époux ne soit déshabillé. Va, et que Dieu te garde. » Il s'en fut au pas de sa porte.
« Femme du prince, entre !»
Elle entra, prit la fille par la main et l'entraîna sur le chemin montant. On la vêtit de soie dorée, on orna son front de bijoux, sa gorge aussi, puis on ouvrit la porte de la chambre. Elle s'avança. Derrière elle, la clé tourna dans la serrure. Le serpent, au bord du lit, dressa la tête. Elle ne bougea pas. Il s'approcha, s'enroula autour de sa poitrine et dit « J'ai mal, des épines m'écorchent. »« Seigneur, c'est ma chemise. »« Ôte-la, ôte-la !»« Seigneur, ôtez la vôtre et j'ôterai la mienne. » « Je ne peux pas. Si j'ôte mes écailles, je serai nu, trop nu. Seigneur, j'ai là pour vous un habit neuf. » La peau du serpent vert craqua, tomba sur le dallage, et de cette peau morte, un jeune homme sortit. Son corps et sa figure étaient si beaux que la fille, elle aussi, quitta son vêtement. Ils s'embrassèrent en gémissant d'amour. Le lendemain fut beau. Quand on ouvrit la porte, un rayon de soleil éblouit la mère du prince. On fit 7 jours de ripaille et 7 nuits de musique. Après ces temps heureux, le jeune homme un matin dit à son serviteur « Je pars chasser le cerf. Veille à ce que ma femme ne parle à personne avant mon retour. » Il s'en fut à cheval. Vers l'heure de midi, un enfant accourut au château. Il dit à l'épousée « Votre père se meurt !» Elle sortit en hâte, courut à l'écurie, sella sa jument noire et chevaucha jusqu'au village. Sa mère l'accueillit devant sa porte. « Fille, dit-elle, un songe a visité ton père cette nuit. Tu dois aller pieds nus sur la colline, trouver un chêne blanc, cueillir l'herbe qui pousse dans son ombre et faire avec cette herbe une cruche de tisane. Il faut qu'avant demain, il ait bu l'infusion. Va et reviens vite. » Elle courut là-haut, chercha le chêne dans la forêt, le trouva, cueillit l'herbe. Quand son sac fut plein, elle se redressa. Des loups hurlait au loin. C'était le crépuscule. Elle grimpa dans le feuillage de l'arbre et attendit le jour. Au matin, elle s'en retourna. Elle perdit sa route. Elle erra, aperçut une cabane au bord d'un torrent, s'approcha, regarda dedans par la lucarne. Elle vit un cercueil posé sur des tréteaux et près de ce cercueil, une table de pierre. Sur cette table étaient deux assiettes de viande et deux boules de pain. La fille avait faim. Elle entra et mangea. Comme la nuit venait, elle s'assit dans un coin du logis. Alors, dans le cercueil, elle entendit du bruit. Son couvercle bougea. Un jeune homme en sortit. Il s'attabla devant une assiette de viande, découvrit à sa droite une autre assiette vide. Il regarda autour de lui, vit la fille au fond de la cabane et lui dit « Qui es-tu ?» Elle lui répondit qu'elle s'était perdue dans la forêt. « Si tu veux, reste ici, tu auras tous les jours à manger, » lui dit l'homme. Elle resta. Ils s'entendirent bien. Un jour, un enfant leur naquit. « Tu ne peux l'élever près d'un mort, » lui dit l'homme. « Viens, je vais te conduire à la maison de mon père. » Au matin, ils s'en allèrent. Au soir, ils arrivèrent au pied d'une montagne. En haut était une demeure. « Ma famille vit là, » dit l'homme. « Va seul maintenant. » Que Dieu te garde, qu'il garde aussi mon fils. On l'accueillit mal à la maison du père. Elle était en haillons. On la poussa dans une cave où était une litière. Or, par le soupirail, toute la nuit, on vit briller une lueur dorée dans l'ombre basse. On s'étonna beaucoup. On rapporta la chose au maître des lieux. Il descendit à la cave. Il vit la fille assise. Elle berçait son fils. C'était de lui que venait la lumière. « Qu'on donne à cette femme la plus belle chambre de la maison, » dit le père à ses gens, « et qu'on prenne soin de son fils comme s'il était le mien. » Le premier époux de cette jeune mère, la cherchant sans cesse par les torrents et les montagnes du pays, parvint ce même soir à la cabane où elle avait autrefois trouvé refuge. Il y découvrit le cercueil ouvert et le mort attablé. « Que cherches-tu ? » dit l'un et l'autre. « Qui es-tu ?» Ils en vinrent chacun à raconter leur vie. L'un dit « J'ai un enfant » et l'autre « J'aime une femme. » Quand vint le point du jour, « La mère de mon fils est ton épouse, Seigneur, » dit le mort. « Homme, tu dis vrai, » répondit le vivant, « Garde ton fils, je reprendrai ma femme. » C'est bonne justice, Seigneur. Soyons amis. Et le vivant s'en alla où était son épouse. Il la ramena chez lui. Ils vécurent des jours heureux. Et l'enfant lumineux revint chercher son père. Ils s'en allèrent ensemble. Ensemble, ils disparurent où n'est ni vie ni mort. Fin de la première face de la troisième cassette, Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, page 116.